Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet.
Victor Hull.
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est un beau livre qui sent la cardamome, la grenade et la fleur d'oranger. On y trouve le rouge du sumac, le jaune orangé du safran ou le vert de la pistache. On y croise des bouchers et des pêcheurs à la ligne, des maraîchers et des pâtissiers. Il nous emmène du littoral d'Oran à Istanbul en passant par les halles de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan. C'est donc un voyage coloré et métissé par les parfums, les goûts et les couleurs de l'Orient et de la Méditerranée que nous vous convions aujourd'hui en compagnie d'Akram Benalal, le chef étoilé du restaurant parisien Akram, mais aussi des trois tables Shirvan qu'il a dressées à Paris, Marrakech et Doha. Shirvan, voyage sur ma route de la soie à travers 60 recettes d'Akram Benalal, un livre avec des textes de Philippe Toinard et des photos de Valérie Guédès, disponibles aux éditions de La Martinière, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Akram Benalal.
Bonjour.
Bonjour Philippe Toinard.
Bonjour.
Alors le titre du livre, je le répète, c'est « Voyage sur ma route de la soie ». Et je crois que c'est important, effectivement, le possessif. C'est donc votre route de la soie à vous, Akram Benalal, un chemin donc qui vous est propre, que vous avez tracé vous-même ?
Oui, absolument. Je dirais, là où ça a commencé, c'est-à-dire à Bakou, en Azerbaïdjan. Et c'est là que j'ai eu, j'étais en train de réfléchir pour faire un restaurant de métissage. Et quand j'ai visité cette ville, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être partir sur cette ville-là pour écrire justement l'ADN de cette cuisine-là.
Alors, c'est une route qui est quand même très, très sinueuse, hein, Philippe Toinard, puisqu'elle va du Maghreb à l'Inde en passant par l'Europe et le Moyen-Orient. Comment vous avez justement reconstitué ce parcours-là avec Akram Benalal ? Vous avez eu, j'imagine, beaucoup de discussions avec lui. Vous l'avez accompagné aussi pendant ses voyages ?
Oui, on est allé ensemble en Turquie, on est allé ensemble en Azerbaïdjan. On est allé donc évidemment visiter la province de Shirvan. Et puis après, quand on écrit un livre avec un chef, j'aime beaucoup passer du temps avec eux. En buvant un café le matin ou en buvant un verre le soir.
Et dans la cuisine aussi, j'imagine.
Et dans la cuisine. Et Akram, que je connais depuis longtemps, s'est laissé porter par mes questions au fil du temps et donc a bien décrit cette route de la soie, justement, de par ses origines et puis dans sa logique culinaire qu'il a entrepris depuis plusieurs années et qui aboutit aujourd'hui à ce voyage.
Alors, on va aller évidemment dans la province de Shirvan dans un instant. Mais avant de le faire, et c'est d'ailleurs ce que vous faites dans le livre, Philippe Toinard, vous commencez par rappeler le parcours d'Akram Benalal. Et ce parcours, il commence à Maison Lafitte, donc c'est près de Paris, c'est un petit peu moins exotique peut-être, mais en tout cas c'est là que vous êtes né, Akram Benalal. Mais il commence surtout par la Méditerranée, à Oran, dans le nord de l'Algérie. Et le premier parfum qui se dégage de ce texte biographique à travers la plume de Philippe Toinard, c'est le parfum des brioches à la fleur d'oranger de votre maman.
Eh oui, exactement. Ah oui. Bah, parce que, en fait,
c'était votre goûter.
C'était mon goûter avec le café au lait. J'étais pressé de rentrer de l'école avec mon cartable où je courais pour aller monter les quatre escaliers, arriver, et puis ma mère nous posait le café au lait avec cette brioche qu'on appelle la brioche Lamona, qui était juste délicieuse, et ça m'a toujours bercé depuis que je suis enfant.
Oui, la mère, elle est omniprésente dans le livre, hein, Philippe Toinard. Cette mère qui s'appelle Louisa, elle a visiblement énormément compté dans le parcours d'Akram Benalal.
Oui, alors elle a énormément compté et elle compte toujours parce que je trouve adorable depuis quelques jours quand on a fait la promotion du livre sur les réseaux sociaux. Il y a toujours un petit mot de sa maman parmi les nombreux commentaires. D'un coup, on voit une Louisa apparaître et elle met toujours « je suis fier de mon fils, je suis fier de mon fils ». Et ce personnage que je ne connais pas, mais que Akram...
Vous l'avez jamais rencontré ?
Non, mais Akram me la contait tellement bien que je la voyais, en fait, cette maman. Et quand je vois aussi la fierté qu'elle a encore aujourd'hui du parcours d'Akram et de leur début, parce qu'il faut reconnaître que c'était pas une enfance très...
Non, ça a été un petit peu compliqué.
Elle était joyeuse pour Akram, ouais. Mais elle était financièrement pas au top.
Ouais. Donc, vous avez mangé de la vache enragée, Akram Benalal, au début, quand vous étiez enfant?
Oui, enfin, la vache enragée, je dirais que c'est un gros mot. Non, mais j'étais... disons qu'on a eu un parcours, moi, ma sœur et mon frère, un peu difficile. J'étais l'aîné de la famille. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai vu ma mère un peu galérer. Et puis, c'est vrai que le jour où mon père l'a abandonné... c'est-à-dire qu'elle a pris force ses responsabilités aussi bien pour nous et elle nous a donné une éducation de valeur, mais surtout de ne jamais se plaindre. C'est-à-dire que j'ai vu en elle une force que aujourd'hui que j'acquiers dans mon travail, dans l'entrepreneuriat que je fais au quotidien. Et c'est vrai que cette force-là, c'est de ne jamais me plaindre quoi qu'il arrive, de toujours trouver des solutions et d'avancer dans la vie. Et c'est ça qui a fait de moi ce que je suis. Mais c'est vrai que ma mère fait partie de toute ma vie parce que justement, je lui dois tout. C'est grâce à elle aussi que je suis là aujourd'hui. Et c'est vrai qu'elle m'a inculqué des valeurs qui, pour moi, sont très, très importantes. Et autour de la cuisine, j'en ai fait mon métier, ma passion. Mais la cuisine, c'est du partage, c'est de l'amour, c'est donner à l'autre. Ça fait partie aussi de mon éducation.
Votre première cuisine, celle que vous avez goûtée en premier, c'est celle de maman?
Oui, bien sûr. C'est le lait de sa maman, forcément.
C'était donc, quoi sa spécialité
Alors, la spécialité de ma mère, c'est la vermicelle au lait, par la suite est devenue un plat que j'ai intégré dans ma cuisine. On fait une vermicelle au lait l'hiver avec la truffe blanche. Donc, y a ça, plus il y a bien évidemment le couscous, ça c'est évident. Plus il y a les plats aussi, les pâtisseries aussi qu'elle s'amusait à faire. Et c'est vraiment les salades de tomates, enfin tout ce qu'elle touche, elle le transforme en bonheur.
Voilà, les repas savoureux et parfumés, c'est sacré, écrit Philippe Thoinard dans le livre. Et vous rappelez, Philippe Thoinard, que quand les ennuis financiers commencent, eh bien, elle vend beaucoup de choses, y compris des choses très, très personnelles. Mais pas question de toucher ni à la table de la cuisine, ni à la gazinière, ni à la cocotte minute. Voilà.
Non, ce qui prouve bien qu'il y avait une importance de la cuisine au sein de la famille. Alors effectivement, vous disiez tout à l'heure la vache enragée. Il y avait une volonté de la maman de faire en sorte que, un, d'inculquer les valeurs malgré les difficultés, et deux, toujours leur faire à manger avec le peu qu'il y avait, mais bien, et toujours parfumé, et toujours dans l'envie de leur dire, voilà, aujourd'hui c'est ça, et demain on va trouver autre chose. En gros, c'était, même si Ekram ne me l'a pas dit, c'était, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et quand on mange bien, en général, ça se passe plutôt pas trop mal.
Alors, il y a la famille, hein, évidemment. Et puis, il y a ensuite l'apprentissage de la cuisine. Alors ça se passe en France et ça se passe en particulier en Touraine. Vous qui connaissez des dizaines et des dizaines de grands chefs, Philippe Thoinard, est-ce que l'apprentissage d'Akram Ben Halal, c'est un parcours relativement classique ou plutôt atypique dans ce monde-là?
Non, c'est relativement classique, mais j'aurais été dans les conditions d'Akram ou d'autres chefs. Quand on voit aujourd'hui qu'il manque beaucoup de monde dans la restauration, par exemple, je pense qu'un garçon moins courageux qu'Akram n'aurait pas résisté au temps qu'il a passé à vivre au-dessus du restaurant de l'un de ses premiers patrons, à faire des heures et des heures, mais il avait une telle passion qui était ancrée en lui que la fatigue ne se faisait pas ressentir. Et encore aujourd'hui, Akram est un bosseur et il n'y a pas ce côté de se plaindre. Et ça, je pense que c'est Louisa qui l'a inculqué. On travaille et on ne se plaint pas.
Apprentissage en Touraine, donc dans la région du centre-Val de Loire, région qui a formé énormément de tocs, pour le coup, Philippe Thoinard.
Ah c'est vrai qu'on ne pouvait pas mieux tomber que d'être en Touraine quand même. Il y avait déjà des grands ambassadeurs.
Oui.
Avant que Akram n'arrive, il y avait déjà Charles Barrier, il y avait Jean Bardet qui était encore en activité. Ouais. Enfin, c'était quand même un sacré. Ça reste encore un sacré pays de.
C'est un creuset.
De relais château, d'étoiles Michelin. C'était.
La région centre.
Oui. Ouais. Et c'est en Touraine que vous êtes rencontrés tous les deux. Vous racontez d'ailleurs dans les cette première rencontre une entrée assez fracassante finalement. Philippe Thoinard, on peut dire ça comme ça.
Je faisais un tournage, je travaillais à l'époque pour la chaîne Cuisine TV. Je faisais un tournage avec un de ses copains, mais je savais pas qu'ils étaient copains. Il s'appelle toujours Olivier Arlot. Et en plein tournage, il y a un garçon qui est arrivé en ouvrant la porte comme si de rien n'était, et c'était Akram qui venait juste claquer une bise et boire un café avec Olivier. Et je l'ai retrouvé quelques années plus tard, mais à Paris. Mais entre-temps, c'est comme ça que je l'ai vu la première fois.
Alors au début, Akram Ben Halal, c'est la pâtisserie qui vous a attiré particulièrement. Pourquoi est-ce que vous avez délaissé les gâteaux pour la cuisine?
Ça s'est fait d'une manière dans le parcours, on va dire vraiment le destin. Parce qu'à l'époque, j'étais au Luxembourg en tant que pâtissier. Et donc le chef qui était là-bas... a arrêté. Du coup, on n'avait plus de chef. Et je me suis retrouvé à la tête de cette cuisine-là et en tant que chef de cuisine. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, et pourquoi pas? Et j'ai continué. Et j'ai un attachement particulier à la pâtisserie et aux pâtissiers parce que, c'est vrai que j'ai appris beaucoup de choses grâce à la pâtisserie. Je dis toujours un bon cuisinier et c'est ce que... j'apprends aussi ça, j'essaye de leur dire à tous mes collaborateurs, un bon cuisinier, c'est celui qui a l'âme d'un pâtissier. Et je pense que c'est évident de, et c'est très important qu'un chef cuisinier ou qu'un cuisinier ait des connaissances en pâtisserie.
Mais l'âme du pâtissier, c'est l'âme quoi alors pâtissier. Justement quels sont les réflexes
c'est les rêves d'abord que l'on acquiert. Alors au-delà des réflexes, c'est disons qu'il faut que ça soit juste, parce qu'en fait, ce n'est pas de l'à peu près, la pâtisserie. Oui. Et puis, quand on mûrit après, il y a un truc qui se passe, c'est-à-dire que quand on démarre sa carrière en tant que cuisinier, souvent, la pâtisserie, on délaisse. On dit, bon, moi, je ne suis pas intéressé par ça. Mais un jour, quand on devient chef, on doit être complet. J'appelle toujours ça un chef toute option. Du coup, il faudra bien aussi réfléchir à la pâtisserie qu'on va servir avec son ADN de cuisine. Donc, il est important que le chef est une connaissance de la pâtisserie.
Alors, la Touraine, Paris, le Luxembourg, l'Espagne aussi, dans votre apprentissage. Chez Ferran Adrià, qu'est-ce que vous avez appris là-bas?
Ah, c'était exceptionnel. Ben, quand je suis arrivé là-bas, pour moi, c'était la NASA de la cuisine. C'est-à-dire qu'on est dans les années 2004. Tout ce qu'on voit qui se fait aujourd'hui, c'est ce qu'il faisait déjà en 2004. Je veux dire, c'était incroyable. Il poussait les choses. La créativité était tellement... poussé, il a donné un coup de pied à la fourmilière. Et donc, par la suite, il y a eu plein de chefs qui se sont dit « Ok, très bien, on va sortir de notre zone de confort et on va créer une cuisine différente. » Et ça a fonctionné parce que, visiblement, voilà, la cuisine aujourd'hui, elle a une vraie place dans ce que j'appelle l'art éphémère. Mais c'est vrai qu'il y a l'art éphémère et de la cuisine, maintenant, on est tombé dans l'expérience client grâce à ça aussi. Je pense que c'est très important.
Burak Ghassanov et la chanson s'appelle Shirvan dans VMDN sur RFI avec le chef étoilé Akram Ben Halal et le journaliste gastronomique Philippe Toinard qui publie aux éditions de La Martinière un beau livre intitulé justement Shirvan, voyage sur ma route de la soie à travers 60 recettes avec les photos de Valérie Guedes. Alors Shirvan, c'est le nom que vous avez donné à trois de vos restaurants à Paris, Marrakech au Maroc et Doha au Qatar, à Akram Ben Halal, trois restaurants qui proposent et qui font vivre cette cuisine métissée dont nous allons parler dans un instant. Mais Shirvan, c'est aussi donc le nom de cette province d'Azerbaïdjan. C'est là qu'a germé l'idée de cette aventure gastronomique ?
Oui, absolument. En fait, ce que je voulais, c'était d'avoir un nom qui soit Perse, Orient, qu'on devine, qu'on trouve beau. Et du coup, j'ai pensé à justement appeler le restaurant Shirvan de par cette ville où justement on fait des tapis aussi parce que la culture du tapis elle est très importante là-bas et j'ai trouvé que le nom était très beau. Donc je me suis accaparé et j'ai appelé le restaurant Shirvan.
Bon, Shirvan, c'est un carrefour, hein, Philippe Toinard. Hein, c'est un carrefour de culture, c'est un carrefour de route. C'est donc un lieu de métissage par excellence qui correspond très bien à la cuisine d'Akram Ben Halal.
Oui, alors nous, on a fait Bakou-Shirvan en voiture. C'était un peu long.
Mais, 3 heures, non
Oui, à peu près 3 heures. Et effectivement, vous arrivez à un carrefour, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que vous quittez Bakou, qui est une ville relativement riche, puisque c'est la capitale, mais c'est aussi le carrefour du gaz et du pétrole. Donc on sent qu'il y a un petit peu d'argent à Bakou. Et vous arrivez à Shirvan, qui est... alors, il y a une porte dorée quand on arrive. Voilà, on rentre dans cette région. Et alors, vous avez toutes les cultures. On sent qu'il y a un apport de l'Azerbaïdjan. On sent que l'Ukraine n'est pas loin. On sent que la Turquie n'est pas loin non plus. Et il y a des vieux métiers. D'un coup, on se retrouve avec, comme l'a dit Akram, toutes les personnes qui font des tapis. Et puis, vous avez des petits vendeurs à la sauvette. On sent pas une province très riche, en fait, mais historiquement extrêmement riche. Mais je ne suis pas sûr que les habitants se rendent compte de la richesse du patrimoine historique qu'ils ont vécu quelques centaines d'années auparavant.
Alors, l'ancienne capitale de cette province de Shirvan, c'est Samachi. Et parmi les reportages que vous nous proposez dans le livre, il y a une étape là-bas, dans le restaurant Gulistan. Alors, on est loin quand même du restaurant Shirvan de la place de l'Alma à Paris.
Alors... ça, c'est vrai, dans tous les sens
du terme. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que ça ressemble à une auberge endormie, pour reprendre l'expression de Philippe Poinard. La montagne, on est un peu sous le brouillard. Alors, l'ambiance est très bon enfant, hein, mais enfin, bon, c'est pas le grand luxe.
C'était incroyable et j'adore ça. Et là, pour le coup, c'était à l'instinct. On y a été comme ça et on a roulé dans ces routes sinueuses de la montagne. Et puis là, on tombe justement sur ce restaurant. On voit un vieux monsieur qui a un visage, d'ailleurs on le voit en photo, incroyable, mais incroyable. Et qui, en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'il a un élevage d'agneaux.
Oui.
Et donc, dans son restaurant, il sert l'agneau qu'il a et il fait cette spécialité qu'on appelle koutab. Donc, le koutab, c'est une fine crêpe à l'intérieur avec de la viande hachée d'agneau. Et au-dessus, on met de la melasse de grenade et du soumac. C'est très, très bon. Et c'était vraiment un moment magique dans tous les sens du terme. On était là, on a tout rallumé. En plus, il faisait froid. On a voyagé comme dans des conditions qui n'étaient pas, très agréables parce que c'était pendant la période du Covid, quand même, il faut le dire. Mmh. Donc, du coup, c'était... super sympa. Il y avait la petite Lada qui était dehors. Enfin, on voit les photos. Enfin, c'est juste génial. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Donc, on est resté là-bas pratiquement pendant 2-3 heures. On a cuit donc les brochettes d'agneau. Il m'a montré comment il les faisait. Et il expliquait en fait son travail, dont il était très fier. Mais c'est le vrai paysan. C'est-à-dire, à la poignée de main, je peux vous dire, vous sentez dans sa main, vous savez, les petites rayures qu'il a autour de sa main, on voit que bosse.
C'est un travailleur, quoi.
Ah oui, c'est un travailleur. Et franchement, j'ai adoré ce moment-là.
Mais ça vous apporte, à vous, ce genre de moment-là, humainement, c'est sûr, il suffit de vous entendre, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais d'un point de vue gastronomique, d'un point de vue culinaire, qu'est-ce que vous retirez de ce genre de rencontre?
Mais moi, en fait, c'est grâce à des rencontres comme celle-ci qu'en fait, je m'enrichis. Et je crée plein de choses. En fait, ça m'ouvre des portes différentes que ce que je serais resté dans mon coin, j'aurais fait des choses. En fait, j'aime l'inattendu. J'aime aller dans ce que je ne connais pas. J'aime connaître, j'aime découvrir. Et ça, c'est vrai que pour le coup, ça a été vraiment une aventure incroyable.
Alors c'est vrai qu'il y a eu il y a plein de rencontres assez fortes effectivement dans le livre Philippe Toineur. Alors on a parlé de Samachi, vous évoquiez Bakou également. Donc à Bakou, vous êtes allé à un autre restaurant, le Seril Tandir, avec son four, un four tandoor. C'est le four qui permet historiquement de faire du poulet tandoori.
Oui.
On n'est pas en Inde, là, pourtant.
Non, mais c'est la même technique. Effectivement, c'est un four à briques réfractaires dans lequel on prépare des heures à l'avance un feu qui se transforme en braise comme un barbecue à la maison. Sauf qu'il est tellement profond qu'en fait, que le produit ne touche jamais la braise, mais c'est uniquement la chaleur qui s'en dégage. En fait, il faut imaginer un puits où on irait chercher de l'eau. Mmh. Sauf qu'au fond de son puits, c'est du feu. Et il y avait une dame. Alors, c'est presque comme le restaurant dont on a parlé avant. Il y a des gens qu'on a rencontrés qui bossent, mais qui disent jamais un mot. Et donc, dans l'auberge dans laquelle on est allé, il y avait plein de gens qui bossaient pour nous, qui se sont mis à cuisiner et qui ne parlaient pas. Et là, c'était pareil, il y avait une dame dans ce restaurant. Elle ne faisait que le pain. Mais elle n'a jamais dit un mot. Elle avait sa place. Elle faisait ses petites boulettes et puis elle les lançait contre une des parois du puits. Ça se transformait immédiatement en galette par la puissance du jet. Et en quelques secondes, avec la braise, c'était cuit. Elle retournait quelques secondes et elle posait. Mais personne ne lui avait jamais demandé de faire X pain. Toute la journée, elle faisait ça.
Bon. Ouais. Pas de four tandoor dans les restaurants Shirvan à Paris, Doha et Marrakech.
Bien sûr, c'est de l'ADN justement de la cuisine. De la cuisine de Shirvan. Et d'ailleurs, c'est de là aussi où on a écrit la cuisine. Parce que le four tandoor, nous, ce qu'on a, c'est des fours tandoor à charbon. Du coup, ça donne ce côté légèrement fumé. Et il fallait qu'on apprenne au maximum les cuissons au four tandoor. Parce qu'on connaît les cuissons au four, à la poêle, à la rôtissoire, mais pas le tandoor. Le tandoor, c'est vraiment exceptionnel comme cuisson, parce que c'est cuit à l'étouffée d'une manière rapide, comme par exemple pour les viandes ou les poissons, et ça garde tout le jus à l'intérieur. Du coup, ça donne des résultats incroyables. Le pain, c'est pareil. Et c'est assez drôle parce qu'à Pompéi, j'ai vu la dernière fois à Pompéi, ils ont trouvé un four, enfin, qui était c'était des fours tandoor. Donc du coup, l'ancêtre du tandoor, quand même, c'est assez très très, enfin, c'est très très loin, quoi. You're like moonlight on the river, and I'm looking for that silver, whatever it takes. I'm not gonna stop till I have to. It's so tempting to give up now when the it's over. Well, I'm ready to end this game, 'cause nothing's gonna make a change. And then you show me kindness, and then you show me laughter, and then you show me joy, out of nowhere, joy. Think I'm too soft to make that killing, and I'm too the sun for days, and then you show me kindness, and then you show me laughter, and then you show me joy, out of nowhere, joy.
Et la voix de Cathy Melua dans VMDN sur RFI avec le chef étoilé Akram Ben Halal et le journaliste gastronomique Philippe Toinard. Alors je le disais tout à l'heure, Akram Ben Halal, il y a 3 restaurants Shirvan à Paris, à Doha et à Marrakech. La carte est la même ou il y a des adaptations locales, donc au goût français, émirien, marocain?
Non, en fait, le Shirvan d'abord, bon, le concept a été créé en France et ce que je voulais c'était que ça devienne un concept duplicable à travers le monde, parce que bon, la chance qu'on a, c'est vrai qu'en France, on a une culture de la gastronomie française où on vient voir ce qu'on fait, et je voulais vraiment que le concept soit créé en France. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans toutes les cuissons et dans toutes les recettes qui avaient été faites, enfin qui sont faites pour le Shirvan, sont réfléchies. C'est-à-dire que c'est pas des recettes qu'on a pris, des recettes classiques. Ou des recettes qu'on va dire qu'on a pris d'un pays et qu'on a juste mis à la carte. On a vraiment travailler sur le gras, le sucre, comment les travailler différemment. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans un plat, par exemple à Chavanne, on peut retrouver plusieurs cultures dans un seul plat. Et en fait, on va prendre une technique d'un pays, on va prendre une épice d'un pays, on va prendre un autre ingrédient d'un autre pays, puis on va faire... Donc du coup, ça donne complètement une nouvelle cuisine. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça ma route de la soie. Et c'est hyper intéressant parce que ça ouvre un portail de créativité énorme.
Alors ça, ça peut paraître étonnant. Ça peut faire peur même peut-être aussi, Philippe Toinard, parce que est-ce que le palais du français, hein, celui qui va aller pour la première fois dans le restaurant Chavanne d'Akram Ben Halal à Paris, est accoutumé à avoir dans la même assiette, dans le même plat, ces goûts très différents là. C'est des accords qui ne sont pas forcément naturels pour un palais non initié, si j'ose dire.
Oui, vous avez raison. Après, moi, une des premières fois où je suis venu au Chavanne, avant qu'on décide de faire le livre, on n'en avait même pas parlé, j'avais cette appréhension en me disant, moi par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, la moutarde pour moi c'est trop fort. Voilà, donc ça m'arrache les papilles. Donc je m'étais dit, là je vais un peu prendre cher. Et en fait non, parce que tout est pensé dans la délicatesse. C'est-à-dire qu'il y a des saveurs un peu fortes, mais qui vont être dans la cuisine contrebalancées. Par exemple, si vous avez un lait, il y a beaucoup de piment dedans, dans les recettes. Oui. Et si vous le contrebalancez avec des graines de grenade qui apparaissent très souvent dans les recettes, vous vous rendez compte que votre piment, il passe assez facilement. Parce que c'est une justesse de dosage de différents goûts qui ne nécessite pas finalement tant d'appréhension que ça. C'est juste de se dire, c'est surprenant de goûter des choses que je n'aurais pas imaginé mettre ensemble dans une assiette.
Alors ce métissage dans l'assiette, il se retrouve aussi en cuisine, parce que vous travaillez avec une brigade internationale, si je veux dire.
Oui, absolument. Pour moi, depuis toujours, ça a toujours été chez moi, dans mon ADN, parce qu'on apprend l'un de l'autre. Et c'est hyper important. Et je suis quelqu'un avec mes équipes, enfin je ne les considère pas comme mes équipes, c'est ma famille. Donc du coup, pour nous, c'est hyper important d'avoir dans une équipe un métissage assez large, je dirais. Et du coup, par exemple, tous les vendredis, il y en a un de l'équipe qui fait le personnel et donc qui fait un plat de son pays. Et c'est génial parce que c'est ça qui est formidable. Et là, en l'occurrence, pour le Chavanne, nous, on a des Népalais, des Indiens, des Pakistanais, des Azerbaïdjanais, des Tunisiens, des Italiens. Donc en fait, c'est hyper métissé. Français, enfin, je veux dire, c'est génial, quoi. Parce que du coup, quand on parle cuisine et quand je suis avec eux et quand on crée des nouveaux plats, on fait d'abord des plats collectifs, parce que je ne travaille pas tout seul, je travaille avec mes équipes et c'est aussi beaucoup grâce à eux. Et du coup, on réalise le plat et puis chacun donne son avis et puis
donc
on essaye d'avancer.
On teste, on goûte, ouais. Etc. Entre nous, entre soi. Et absolument. Puis ensuite, quand on est satisfait, on le teste aussi auprès des clients, auprès de visiteurs de passage avant d'inscrire à la carte. Comment
alors,
ça se passe?
Je le fais tester à mes clients fidèles. Quand ils viennent, je leur rajoute un plat, je dis, tiens, voilà, ça c'est nouveau, ça va sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, par exemple, on fait un tacos, mais le tacos, ça n'a absolument rien à voir avec la cuisine de la route de la soie. Sauf qu'on l'a travaillé différemment parce que c'est les goûts que les clients aiment. On a créé aussi un naan burger qui vient de sortir là. Enfin, c'est vraiment exceptionnel. On est parti sur le naan. Il fallait que la taille du bœuf ne soit pas trop large parce que sinon ça accroche au four tandoor. Et c'est monté comme un millefeuille, comme un hamburger. Et c'est vraiment délicieux, quoi. Et ça ne vient que par ma réflexion au départ, de pousser les équipes à leur sortir de leur zone de confort. Et on fait 10 tests, voire 15 tests. Et ensuite, je le teste sur mes clients, sur mes amis. Et puis derrière, on approuve le plat et on le met à la carte.
Et les ingrédients que vous utilisez justement pour les réaliser, ils viennent des différentes régions du monde?
Alors, les épices sont minutieusement choisies. On travaille avec des fournisseurs que, voilà, on les choisit, je parle en France, hein. Pour les viandes, les poissons, les fruits et légumes, tout ça, on fait un gros travail de sourcing. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la carte, sur la carte Chavanne, il y a 40% de la carte, elle est végétarienne. Pour moi, c'était important parce que ça vient aussi du fait de mon voyage en Inde. Et là, je me suis pris une claque monumentale sur la cuisine végétarienne, quoi. Elle est incroyable. Donc du coup, j'ai appris ça et je me suis dit, on va l'intégrer dans tout ça. Et du coup, pour les autres pays aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi un travail de sourcing. Mais quand j'ai créé le concept, ce que j'ai voulu faire, pour, par expérience, et j'ai toujours, parce que maintenant je prends un peu d'âge, parce que j'avais ouvert mes restaurants à Hong Kong à l'époque, j'avais le restaurant Akram aussi à Hong Kong qui avait une étoile Michelin, et en fait on était face à des difficultés de produits, ils ne voyageaient pas de la même manière, on essayait absolument de faire la même cuisine qu'en France. Mais en fait, le terroir, quand on prend un produit d'un pays et quand il voyage et fait 12 heures d'avion, c'est plus le même. Il n'a plus le même goût. Donc du coup, ce que j'ai fait pour Shervan, c'est de prendre tout ce qui existe à l'étranger. Moi aussi, je me suis sorti de ma zone de confort. Et en fonction des produits, j'ai créé cette cuisine. Le riz, la volaille, les légumes, l'agneau. Et je ne vais pas aller travailler le canard, le foie gras, enfin que des produits hyper compliqués à trouver dans d'autres pays.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec le chef étoilé Akram Ben Halal et le journaliste gastronomique Philippe Toinard, il publie chez La Martinière un beau livre intitulé « Shervan, voyage sur ma route de la soie à travers 60 recettes » avec les photos de Valérie Guedes, très importantes, oui. Hein, les photos évidemment dans un livre de cuisine. Alors je me suis piqué au jeu du repas, je me suis baladé un petit peu à travers vos recettes en imaginant ce que j'aurais commandé dans un de vos restaurants. C'est un choix évidemment très personnel que j'assume. Alors toute mon équipe le sait, j'adore le fromage, donc forcément moi j'aurais pris un cheese naan, bon, c'est très voilà. Très classique, voilà, donc dans ces plats à partager que vous présentez dans la première partie du livre. Il y avait aussi une photo qui m'avait beaucoup attiré, justement, c'est le koutab, mais vous en avez parlé vous-même, oui. De vous-même, tout à l'heure, à Akram Ben Halal, donc cette espèce de crêpe chausson, hein, c'est ça, avec, oui. Que vous parfumez en l'occurrence à la grenade. Oui. Il y a beaucoup de grenade et de coriandre, hein, ce sont des ingrédients très présents dans les recettes, Philippe Toinard.
Oui, parce qu'en fait, j'avais un peu étudié, Akram le savait avant moi, mais quand j'ai étudié la présence de la grenade, en fait, vous en avez sur tout le bassin méditerranéen, et même de plus en plus en France, où on se remet à cultiver de la grenade dans le sud-est, parce que les conditions climatiques rendent possible désormais la culture. Et ça va du Maroc jusqu'en Inde, vous avez des arbres à grenade, alors que nous, on la voit de temps en temps sur le marché, déjà, on se demande bien ce qu'on peut en faire, sauf que quand on en ouvre une, c'est la folie des possibles. On peut tout parfumer, toutes les cuisines avec la grenade. Et effectivement, il y en a partout dans le bassin méditerranéen.
Alors, on passe à l'entrée à présent avec le dolma. Alors, le dolma, c'est un plat habituel, hein, de la cuisine méditerranéenne. On en trouve dans plusieurs pays du bassin méditerranéen, dans les Balkans, au Maghreb, un peu au Moyen-Orient aussi. Vous nous en proposez deux versions à Akram Ben Halal. Une à la viande et puis une version végétarienne.
Oui, absolument. Donc, en fait, on a remplacé la feuille qui est autour, donc c'est une pâte à pâte, hein. Je l'ai remplacée par une feuille de chou. C'est plus digeste, même pour la viande. Et c'est servi donc chaud avec un yaourt légèrement relevé avec ail et poivre et jus de citron qu'on met au dernier moment. Et en fait, on arrive avec la cocotte et donc on se sert comme ça. Et c'est vraiment, enfin, les gens adorent. On met au dernier moment un peu d'herbe, de la coriandre, de l'estragon, de la menthe, juste au-dessus comme ça pour parfumer un petit peu le plat un peu plus.
Voilà, je suis en train de saliver. Là, c'est pas du tout bon quand on fait une émission de radio en direct. Alors, on va passer au plat. Alors là, j'ai hésité forcément. Et donc forcément, comme je suis très gourmand et que j'aime bien découvrir, j'ai pris un plat de viande et un plat de poisson. Ouais. Donc, côté viande, j'ai choisi l'épaule d'agneau, crème de yaourt et cumin, graines de grenade. Ouais. Alors là, c'est rien que le nom déjà. Ah ouais. On en salive d'avance. Cela dit, il faut avoir du temps pour faire ce plat. Deux marinades quand même. Hein. Deux cuissons au four, dont la deuxième qui dure 3 heures.
Oui, absolument.
Tout le monde ne peut pas se permettre de faire ça chez soi, là. Même
et, non,
le livre.
Et non, et c'est pour ça qu'en fait on a travaillé, c'est pas une épaule d'agneau, c'est plus que ça. Et vraiment, elle est à la cuillère. Parce qu'une c'est-à-dire que quand vous la mangez, moi ce que j'aime dans chaque plat, c'est que ça devienne addictif. On se dit, ah, c'est bon, c'est le goût d'y retourner-y, comme on dit.
Oui.
Donc là, quand on pose l'épaule d'agneau, il est vrai que ça vous retire l'os avec la main, quoi. Et donc elle est confite, il y a des saveurs, une explosion de goût, de saveurs. Et puis en fait, on se prend un petit morceau, puis finalement on reprend un autre. Puis finalement on se dit, bah, une épaule d'agneau pour un, qui était censée être pour deux, vous pouvez la manger tout seul.
Alors, pour parfumer, jus de citron. Alors, très présent aussi le citron dans l'ensemble des recettes. Il y a même du citron noir aussi.
Citron noir d'Iran, absolument. Et on met le citron vert. Alors, c'est très
Il est très différent, le citron noir d'Iran ?
Oui, alors il a un parfum très prononcé. Vous savez, comme le jus de citron qu'on fait réduire. Donc, c'est l'acidité, enfin, c'est le parfum de l'acidité sans l'acidité. Et puis, c'est hyper intéressant parce que le citron noir, c'est pareil. Les épices, il y a une vraie culture. La culture des épices, c'est la maîtrise des épices. C'est-à-dire que ma mère m'a toujours dit, les épices, ton œil, c'est ta balance. Et c'est assez vrai parce que quand on laisse le pot ouvert, quand on l'achète, on met un tout petit peu, ça fonctionne. On réessaye une semaine après parce qu'on a laissé le pot d'épices ouvert. Et ben ça n'a pas la même... vous voyez, donc il faut chercher ça aussi. Il faut se poser cette réflexion-là.
Donc l'expérience est évidemment très très importante en cuisine de toute façon.
Ah oui, complètement. Oui.
Alors donc pour parfumer, je le disais, donc cette épaule d'agneau, jus de citron, gingembre, ail, laurier, cannelle, mais aussi alors cardamome noir et cardamome verte.
Oui.
Alors expliquez-nous la différence entre
les deux. La cardamome noire, elle est fumée et elle est un peu plus grosse. Et la cardamome verte, elle a un côté beaucoup plus floral et elle a un goût beaucoup plus fruité. Et moi, j'adore la cardamome noire. Je trouve que c'est hyper intéressant, c'est intense. Ça donne un petit côté fumé, vanille. Enfin, c'est hyper intéressant. Alors que la cardamome verte, ça va apporter de la fraîcheur. J'appelle ça l'épice citron, quoi, presque, parce que c'est agrumes. On met ça avec des agrumes, par exemple, ça fonctionne. Et ça, c'est... Donc les deux, mixer les deux. Et même, je vous dirais, si on met la cardamome noire, la cardamome verte et du café, les trois, ça fonctionne. Vous voyez ? Comme le café arabe, quand on fait le café turc, c'est le café arabe, on le fait avec la cardamome verte. Et le café arabe, on le fait avec la cardamome verte aussi, et safran.
Alors, voilà pour le plat de viande. Le plat de poisson, il est pour vous, Philippe Toinard. J'ai choisi le ceviche de dorade rose, d'autant qu'il accommode à crème madalal la dorade avec de l'eau de rose et des pétales de rose. Alors ça, c'est formidable pour un repas amoureux, ça.
Oui, c'est surtout très frais. Enfin, l'avantage, ça, vous avez choisi une bonne recette, c'est que même si on n'est pas hyper fort en cuisine, le ceviche, il n'y a rien de plus simple. En fait, c'est vraiment... je ne remets pas en doute la capacité d'Akram, mais c'est vrai que le ceviche, parfois on se dit « ça m'a l'air un petit peu compliqué ». Pas du tout.
Oui. C'est extrêmement... C'est plus simple que l'épaule d'agneau, là, pour le coup. Alors, c'est plus rapide aussi.
L'épaule d'agneau, moi j'en fais, mais un peu à la française. Et oui, c'est long, sauf que quand on vous dit de cuire l'épaule d'agneau à l'étouffer pendant 7 heures... Vous pouvez sortir de chez vous, en fait. Vous mettez ça à 110 degrés, vous sortez, vous revenez 7 heures plus tard, la cuisson est terminée.
Bon, alors revenons à mon ceviche. Pardon,
donc, on revient au ceviche. Oui. Alors, l'eau de rose et les pétales de rose, c'est pareil, ça vous apporter une saveur qu'on n'a pas l'habitude en France de manger beaucoup.
Non, dans la pâtisserie peut-être, mais pas...
Un peu plus dans la pâtisserie. Oui. Pierre Hermé avait été un des premiers à l'utiliser. Et ça vous amène énormément de douceur. Il n'y a pas de claque d'un parfum qui va vous prendre trop les papilles. C'est juste une douceur qui vient se mêler à un côté ceviche qui est parfois un peu acidulé profondément, si vous l'avez bien dosé. Et du coup, ça vient atténuer ce côté un peu acidulé du ceviche.
Oui, l'eau de rose en dehors de la pâtisserie, vous l'avez déjà utilisée aussi pour d'autres plats à crème madalal ?
Oui. Alors moi, j'adore l'eau de rose. Je l'ai utilisée aussi sur un tartare de thon. Ça fonctionne très, très bien. Je l'ai utilisée aussi avec du caviar. Alors en gelée, je faisais une gelée d'eau de rose. On vient disposer juste au-dessus caviar et algues. Ça fonctionne super bien. Justement, c'est inattendu.
Oui, c'est très surprenant.
Mais les goûts fonctionnent, quoi. C'est super intéressant. Et avec le café, j'adore le café. Je trouve que le café, c'est un parfum merveilleux. Ça peut se marier avec beaucoup de plats. Et voilà, donc en gros, pour ce plat-là, ce que je donne en tips en plus, c'est que en fait, on rajoute, s'il y a un vaporisateur, si on a de la très bonne eau de rose, au dernier moment, on le pose au milieu de la table où on a ses amis qui sont là, et en fait, on vient asperger avec l'eau de rose le ceviche de dorade.
Très joli salade, effectivement, on imagine. Alors, on passe au dessert. Alors là, évidemment, rien que le nom, il m'a fait craquer. Je pense que je ne vais pas être tout seul. Millefeuille à la fleur d'oranger. Donc, millefeuille, ça fait craquer forcément. En plus, à la fleur d'oranger, c'est extraordinaire. Vous l'avez goûté, j'imagine.
Alors, moi, j'ai pris l'autre. J'ai pris le millefeuille au chocolat.
Ah, d'accord.
Qui est pas mal aussi.
Bon, alors, alors, le millefeuille. Alors, ce millefeuille, pareil, quand je l'ai créé, c'était il y a 5 ans. C'était le premier millefeuille sans pâte feuilletée. C'est-à-dire que j'ai utilisé la pâte à filo en plusieurs couches.
Alors, c'est quoi la pâte à filo? Parce que ça aussi, c'est un geste qui est assez représentatif.
Voilà, c'est des fines feuilles. Comment je pourrais vous dire? C'est des feuilles qui sont faites à base donc, de farine et d'eau et qui sont étalées très, très finement. C'est ce qu'on utilise surtout dans les baklawa, dans les pâtisseries orientales. Mmh. Et donc, j'ai récupéré ces feuilles-là. On met du beurre clarifié, du miel et on entrepose. En fait, il nous faut 5 feuilles par plaque. Et on fait une ganache au chocolat blanc à la fleur d'oranger. On fait un confit d'orange aussi. Et du coup, ce millefeuille, il ne ressemble à rien d'autre. Parce que, moi, j'adore les millefeuilles. Et souvent, dans les millefeuilles, avec la pâte feuilletée, c'est souvent lourd. Oui. Surtout à la fin du repas. Donc, quand je pense ma cuisine et quand je crée des desserts aussi, c'est que je pense à l'après. Je me dis, voilà, il faut qu'à la fin, le dessert ne devienne pas le plat de trop. Il faut que ça soit, waouh, c'est super, c'est subtil. Et du coup, on fait ces feuilles-là, qu'on coupe après. Et on le sert dans une planche en bois. Et alors, c'est très facile. On peut le faire à la maison. Vraiment, c'est hyper facile. Les feuilles, elles sont déjà prêtes. Du coup, il y a juste à mettre le beurre clarifié avec le miel. Et la ganache au chocolat, c'est très simple. C'est une ganache qu'on fait la veille. Le lendemain, on la monte au fouet. Et ça fonctionne. Et puis le confit d'orange, soit on l'achète si on a un très très bon, épicier qui fait un confit d'orange, on mixe les oranges, ensuite on rajoute de la fleur d'oranger, on peut rajouter de la menthe si on a envie. Enfin bon, après on laisse libre sa créativité et on étale ça sur ces feuilles-là, en 3.
Voilà. Alors après le dessert, alors je pensais que vous allez me dire après le dessert on boit du thé sur la route de la soie, ça me semblait évident, mais vous parlez beaucoup de café quand même depuis le début de cette émission. Vous êtes plutôt café ou thé pour accompagner justement?
Non, on fait une eau avec justement toujours pareil le thé blanc, c'est-à-dire c'est de l'eau chaude avec de l'eau de fleur d'oranger et en fait on boit cette boisson à la fin du repas pour digérer. Ça permet pour une meilleure digestion et pour se sentir mieux.
Voilà. Et ben c'est formidable. Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir, Akram Benalal et Philippe Toinard. Le livre Shirvan, voyage sur ma route de la soie à travers 60 recettes, disponible, je le rappelle, aux éditions de La Martinière. Merci encore une fois et très bon appétit à ceux qui nous écoutent. Et c'est pas fini, on va continuer en musique.
Je te frapperai sans colère et sans haine comme un boucher, comme Moïse le rocher, et je ferai de ta paupière.
Pour abreuver mon Sahara, jaillir les eaux de la souffrance, mon désir gonflé d'espérance sur tes pleurs salés nagera.
Leotantimo menas. Comme un vaisseau qui prend le large, et dans mon cœur qu'ils souleront, tes chers sanglots retentiront comme un tambour qui bat la charge.
Ne suis-je pas un faux accord dans la divine symphonie, grâce à la vorace ironie qui me secoue et qui me mord?
Leotantimo menas. Elle est dans ma voix la criarde, c'est tout mon sang, ce poison noir. Je suis le sinistre miroir où la mégère se regarde.
Je suis la plaie et le couteau, je suis le soufflet et la joue, je suis les membres et la roue, et la victime et le bourreau.
Leotantimo menas. Je suis de mon cœur le vampire, un de ces grands abandonnés, au rire éternel condamné, et qui ne peuvent plus sourire.
Leotantimo menas.
Timouroumenos, Jean-Louis Murat et Morgan Imbault, d'après Charles Baudelaire, évidemment. Baudelaire, qui dans Les Fleurs du Mal écrivait: il est des parfums frais comme des chairs d'enfants, doux comme les hauts-bois, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphants, ayant l'expansion des choses infinies. Parlons parfums, justement, après ceux de la cuisine. On va découvrir un lieu unique au monde, à Versailles, près de Paris. Se trouve en effet l'Osmothèque. C'est le seul conservatoire de parfums. Il s'adresse aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers. Et notre reporter Fanny Blechner nous y mène par le bout du nez.
L'Osmothèque a été créé il y a un peu plus de 30 ans et compte aujourd'hui plus de 5000 parfums, dont 800 avaient totalement disparu. Ici, pas de jolis flacons, mais des contenants bruns de laboratoire qui bloquent les UV. Thomas Fontaine, parfumeur créateur et président de l'Osmothèque, nous les présente stockés à 12 degrés dans des caves à vin.
Le parfum est un peu comme du vin, il change avec le temps. Sauf que la bonification d'un Bordeaux ne s'applique pas au parfum.
Tout est donc fait pour éviter l'oxydation des parfums reconstitués et reconstitués à l'identique, selon la formule précise qui a servi à la composition à l'époque et avec des matériaux plus ou moins faciles à retrouver. Par exemple,
un bloc d'ambre gris, donc, qui est brut, qui est une concrétion stomacale chez le cachalot, autour des becs de calamar qu'il n'arrive pas à digérer. Et cette concrétion stomacale est évacuée naturellement. Hein. Et surtout, la particularité, qu'elle doit être flottée. C'est un peu comme une pierre ponce. Hein. Je ne sais pas, vous voyez là, cette odeur qui est déjà très animale, mais très ambrée.
Ces matières premières servent donc à repeser d'anciennes formules. Le plus ancien parfum ici date du 1er siècle après Jésus-Christ. Il s'agit du parfum royal de Perse, recréé à partir des écrits de Pline l'Ancien.
Merci.
Alors, les mouillettes, elles sont là.
Mais on peut aussi retrouver l'odeur du parfum de Napoléon.
Et en l'occurrence, il avait toujours dans une de ses bottes un long tube qui glissait dans sa botte pour pouvoir, quand il voulait, utiliser de l'eau de Cologne. Et puis, quand il est parti à Sainte-Hélène, son aide de camp, le Mamelouk, Saint-Denis, il lui a demandé de refaire de l'eau de Cologne. Et il a fait de l'eau de Cologne avec les produits locaux. Donc on aurait pu récupérer cette formule qu'on a refaite.
L'odeur est typiquement celle d'une eau de Cologne classique, très fraîche. Mais c'est autre chose qui se joue ici.
On peut se dire, tiens, voilà, j'ai sous le nez le coup de Napoléon.
À ce moment, l'usage du parfum est très différent de ce que l'on peut avoir aujourd'hui et c'est aussi l'un des enjeux de l'Osmothèque, retracer par les senteurs l'histoire de la parfumerie, rappelle Thomas Fontaine.
Au 19e, la parfumerie était encore assez hygiéniste. Maintenant, c'était un usage beaucoup plus personnel, séducteur dans certains cas, ou purement hédoniste, purement même égoïste. Parfois, on se parfume pour soi-même.
L'Osmothèque permet aussi de voir l'évolution des accords et quel que soit l'usage que l'on peut faire du parfum, le Covid-19, avec la perte de l'odorat, est venu nous rappeler que c'est un sens capital.
On s'est rendu compte avec les anosmies que sans le sens de l'olfaction, ce que l'on mange n'a plus aucun goût. Notre libido est complètement éteinte, notre relation à l'autre est complètement perturbée. Donc les gens... Après avoir récupéré le sens de l'olfaction, on s'est rendu compte que c'était très important dans la vie de tous les jours.
D'où la double importance de l'Osmothèque, conserver un patrimoine riche et périssable, mais aussi faire ressurgir des émotions, le fameux effet Madeleine de Proust.
Reportage de Fanny Blechner pour VMDN. L'Osmothèque, le conservatoire international des parfums, se trouve donc à Versailles, pas très loin de Paris, et des événements sont régulièrement organisés hors les murs, comme on dit. Dans une poignée de secondes, le journal sur RFI. À demain pour parler bande dessinée, cette fois avec Eric Stalner qui publie Bertille et Bertille, l'étrange boule rouge, chez Bambou dans la collection Grand Angle. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.